Bonsoir à tous, très, très heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie chaleureusement la librairie Chan de cette invitation parce que il y a du monde et c'est tant mieux et c'est bien de pouvoir organiser ce genre de présentation dans une librairie. Donc merci encore et puis de vous être déplacé. Alors je vais dire quelques mots sur d'abord ce qui nous a conduit à faire ce livre sur, à partir des photos d'Alessio De Andrade. C'est le fruit d'une rencontre. Hein. On s'est rencontrés il y a déjà 2 ans à peu près, avec oui, comme quoi le temps passe très très vite, effectivement, 3 ans, 4 ans même peut-être, avec Patricia, pour imaginer ce que l'on pourrait faire à partir des nombreuses photos qu'avait prises Alessio lors des mois qui ont suivi la révolution des œillères, enfin le 25 avril 1974. Il y avait une masse documentaire tout à fait impressionnante. Et au fil des échanges avec Anne, qui est ici à mes côtés, eh bien, on est arrivé à faire une sélection. C'est toujours difficile de sélectionner sur autant de photos intéressantes, de faire une sélection d'une cinquantaine de photos, celles qui sont rassemblées dans cet ouvrage, qui est aujourd'hui publié. Et je vous dirais que ça a été à la fois difficile, comme toutes les sélections, mais relativement facile, parce que il y a eu, au-delà de cet intérêt commun pour la révolution des œillets et le Portugal de l'époque, eh bien, il y a eu cette rencontre tous les trois. On a travaillé avec à la fois beaucoup d'efficacité et beaucoup de plaisir tous ensemble. Et j'espère que ça se ressent aussi dans le choix des photos et dans le livre qui vous est proposé. C'était une très très belle rencontre et j'en suis très heureux que Patricia soit ici parce que on souhaitait vraiment faire connaître ce travail qu'a réalisé Alessio De Andrade au Portugal en 1974. Certaines de ces photos étaient connues, publiées dans un certain nombre de news, de magazines, de journaux. Lui-même était mandaté par Magnum, donc il a travaillé pour l'agence Magnum. Mais un certain nombre étaient inédites et vous les découvrirez. Et je pense que cette sélection vous reflétera aussi la qualité de ce travail, ce regard si aiguisé qu'avait Alessio pour saisir l'instant. Et cet événement dont je vais vous parler un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas bien, et le Portugal et la révolution des œillets, mais c'est un hommage véritablement rendu à ce travail de photoreporter qu'a réalisé Alessio. Alors d'autres photographes sont allés au Portugal, ils étaient assez nombreux, peu la journée du jeudi 25 avril 1974, plus par la suite. Et Alessio, sa spécificité, c'est qu'il y est allé à partir de l'été 1974, à 3 reprises principales, jusqu'en 1975. Et la plus grande partie des photos qui sont proposées ici ont été prises durant l'année 1974. D'où le titre « Portugal 1974 ». Et puis, lumière d'avril, on a eu cette idée parce que, bien évidemment, les œillets, c'est le mois d'avril, le printemps portugais, comme on l'a appelé. Et on a le sentiment, et en regardant ces photos, que cette lumière d'avril, eh bien, elle irrigue toute la période. Elle imprègne toute la période, et même jusqu'au temps présent, j'en dirai un mot dans quelques instants. C'est important d'avoir cette lumière. Alors cette lumière qui était, et c'est la chance qu'a eu Alessio d'une certaine manière, il y est allé après, pendant l'été et dans les mois qui ont suivi, parce que le jeudi 25 avril 1974, à Lisbonne, il faisait assez gris. Et donc, ceux qui ont fait les photos, certaines sont passées à la postérité, eh bien, le temps n'était pas très très réussi, très agréable, comme on pourrait l'imaginer à cette période à Lisbonne. Alors, voilà, donc c'est véritablement un travail de photographe avec ce regard, ce sentiment qui l'animait en permanence de grande fraternité, d'aller vers les gens, et c'est ce qu'on a voulu relever. C'est-à-dire que dans la sélection à laquelle on a procédé, il y a bien sûr des personnages très célèbres de l'histoire, des personnalités politiques, notamment les Álvaro Cunhal, Mário Soares, tous ces grands noms que vous connaissez, qui ont été des acteurs importants de la transition, ce qu'on a appelé le processus révolutionnaire. Et puis des capitaines, des officiers, ceux qui ont fait le 25 avril, plusieurs sont saisis, sont photographiés ici. Et puis une foule d'anonymes. Et c'est aussi ce qu'on a voulu rendre à travers cet ouvrage, c'est-à-dire de montrer un peu l'envers du décor, de montrer le quotidien des gens de Lisbonne notamment, mais pas seulement de Lisbonne, parce qu'il est allé ailleurs, il est allé en Alentejo, il est allé dans plusieurs coins du Portugal, même à Fatima, au mois d'octobre 1974. Vous verrez, il y a des photos étonnantes, des processions de Fatima rituelles du mois d'octobre chaque année. Hein. Eh bien, il y est allé, à la rencontre, il a regardé avec, son appareil de photographe, et c'est véritablement des photos qui prennent un sens très, très important, un sens historique, un document aussi d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle vraiment on est très fiers d'avoir pu faire cette sélection. Alors le Portugal de 1974, puisque tel est le titre, c'est bien sûr l'événement fondateur, le 25 avril, ce jour entier et pur d'où nous avons émergé la nuit et du silence, pour reprendre les mots célèbres d'une poète portugaise, Sofiane Melo Breiner, qui a écrit un très joli poème sur le 25 avril. Et cette lumière dont elle parle, ce jour qui a marqué une césure entre un avant et un après, l'avant c'est celui de la dictature salazariste qui s'effondre en une journée, le jeudi 25 avril 1974, et un après qui est celui de tous les espoirs, de tous les rêves. Et on a essayé justement de montrer cela à travers ce livre, parce que comme je le rappelle dans le texte que j'ai écrit, il y a cette dimension du rêve qui est tout à fait déterminante pour comprendre la magie, finalement, qui continue d'opérer aujourd'hui lorsqu'on parle du 25 avril, de la révolution des œillets. Eduardo Lourenço, qui est un essayiste portugais, disait « Voilà, une révolution, c'est peut-être ça, on ne sait pas trop où on va, mais on y va poussé par des rêves plus forts que nous. » Poussé par des rêves plus forts que nous. Et c'est ces rêves-là, finalement, qu'Alessio a su capter. Et ça, c'est évidemment, je dirais, le talent du photographe, et peut-être aussi l'atout dont dispose un photographe par rapport à nous, les historiens notamment. On est obligé, après, de recomposer tout ça, d'écrire avec une certaine rigueur, on l'espère, mais cette capacité qu'a un photographe de saisir l'instant du moment. Et ça, c'est véritablement très perceptible, très net à travers ces photographies qui sont reprises ici. Donc voilà, cette dimension du rêve, cette lumière d'avril, c'est un peu ça que nous avons voulu restituer. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire à proprement parler. Il y en a d'autres. Vous avez évoqué tout à l'heure les Sous les œillets à la Révolution, qui est une petite synthèse. Il y en a un cycle commémoratif qui va se poursuivre dans les mois qui viennent et qui va donner naissance à pas mal de titres, au Portugal bien évidemment, mais partout dans le monde, pour à la fois célébrer et dire ce qu'a été ce processus révolutionnaire. Mais ce qu'on a voulu là, c'est véritablement saisir ces instantanés à travers le regard, l'acuité du regard d'un photographe. Et donc je pense que la révolution, le Portugal de 1974, lorsqu'on le montre ainsi, est un peu moins mystérieux ou un peu moins analysé par le biais, toujours pertinent mais un peu réducteur, le biais des grands événements politiques. C'est-à-dire ces événements qui scandent le processus révolutionnaire, qui commencent le 25 avril 1974 et qui, en gros, se terminent 2 ans plus tard, lorsque la constitution de la démocratie portugaise est adoptée au début du mois d'avril 1976, ponctuée par des élections, ponctuée par des crises politiques. Mais derrière tout ça, il y a cette dimension essentielle qui est d'une révolution sociale, des mouvements populaires. Et ces photographies nous permettent d'en prendre la mesure. Il y a la décolonisation. Et vous verrez, dans ces photographies, il y a des choses qu'on a très peu vues. À Lisbonne, en 1960, on les a vues bien sûr à l'époque, mais les photos, ou du moins la transcription qu'on en a faite, est beaucoup moins claire. Là, on donne à voir ces mouvements de décolonisation qui sont très puissants, ces manifestations où tout le monde est dans la rue pour réclamer d'en finir enfin avec ce cycle impérial qui a dominé plusieurs siècles d'histoire et qui s'est achevé de manière très problématique pour le Portugal avec la dictature salazariste. Et ça, on le voit très clairement à travers les photos qu'Alessio a prises. Et elles sont rares. Vous n'en verrez pas beaucoup des photos de ce type. Et je pense que ça constitue un plus de cette sélection à laquelle on a procédé. Donc ça vous donne à voir la pauvreté endémique que connaissait le pays encore au sortir de la dictature qui s'est souvent réclamée justement de cette pauvreté, cette humilité simple, assumée, acceptée, presque souriante. Et là, on voit bien ce qu'était le Portugal de l'été 1974 au sortir de ce demi-siècle de dictature. Et ce sont des images qui comptent, des images qui restent pour nous dire la réalité de ce que fut l'avant et du potentiel, de l'espoir qu'a incarné ce mouvement révolutionnaire. Voilà, je ne sais pas, je ne vais pas être trop long non plus, parce que vous aurez à lire tout ça et à découvrir, mais ce processus, on l'a capté à travers une année clé, l'année 1974, même si certaines photos ont été prises en 1975, mais l'essentiel, c'est l'année 1974, qui est l'année fondatrice, qui est l'année de tous les rêves, de tous les espoirs. Quelques-uns seront déçus ensuite, des rêves déçus, le désenchantement gagnera, mais on sent cette intensité, on sent dans beaucoup de regards des interrogations, on sent aussi du doute, mais parce que le peuple est composite, c'est l'avènement du peuple, la révolution, disait Victor Hugo, oui, mais quel peuple? Ce peuple portugais était composite, et on le voit à travers ces photos, avec certains qui sont dans un attentisme prudent, voire plus, ou dans une tentation même de revenir sur l'existant et de rétablir l'ordre ancien. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de montrer, de donner à voir. J'espère que le résultat est à la hauteur du plaisir qu'on a pris, nous, à le faire. Et vraiment, encore merci à Patricia pour nous avoir fait confiance, parce que voilà, c'était un pari. Et voilà, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous en éprouverez autant à le lire. Et puis, surtout en ces temps d'incertitude, un peu partout, au Portugal aussi, ça bouge pas mal en ce moment. Voilà, je reprendrai ce qu'on dit souvent là-bas, au Portugal, 25 d'avril, sempre, le 25 avril, toujours. Voilà, donc bonne lecture et vive le 25 avril. Et vous avez bien sûr des questions. Cette couverture, la légende, parce que Alessio avait fait un travail d'identification, enfin de repérage de toutes ces... On ne sait pas trop, finalement, si c'est un soldat qui revient des guerres coloniales ou si c'est un anonyme sans lien particulier. Disons que c'est sur un quai à Lisbonne, à l'été 1974. Et ce qui nous a évidemment saisi dans cette image, et ce qu'on voulait rendre, c'est la lumière et la légèreté. La légèreté du personnage qui semble voler. Alors moi, j'ai dit, c'est un peu l'homme aux semelles de vent. Enfin, vous voyez, cette illusion un peu rimbaldienne et de changer la vie aussi. À ce moment-là, on voulait changer la vie au Portugal en 1974. Et donc, ce côté très aérien avec un certain nombre de choses qui identifient très clairement Lisbonne et qui nous donnent cette lumière si particulière. Et je trouve que nous avons trouvé collectivement que c'était un bon choix pour cette couverture. Voilà, donc l'homme aux semelles de vent, on l'a rebaptisé ainsi, pour illustrer ce retour, cette grâce finalement qui saisit pas mal de monde au Portugal à ce moment-là. Certains parce qu'ils revenaient aussi dans des conditions difficiles d'Afrique. Mais voilà, on a voulu retenir avec évidemment cette valise sur l'épaule, qui est aussi un rappel de la situation de beaucoup de Portugais de l'époque, hein, qui soit avaient dû partir, soit qui rentraient. Et voilà, c'est un résumé de ce Portugal du mouvement, d'une forme d'allégresse et de légèreté que l'année 74 identifie, enfin symbolise à nos yeux. Voilà, une des raisons, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle qu'on avait en tête quand on a retenu cette photo. Et puis c'était du noir et blanc. Très important, parce qu'avec Patricia, on en a parlé, parce que Alessio était vraiment un maître du noir et blanc avant tout, et des photos en couleur qui sont très réussies, mais il avait ce talent absolument inouï, et puis c'était un émule de Cartier-Bresson qui, voilà, et pour lui, ses photos en noir et blanc, sans retouche, sans flash, sans rien, c'était l'essence même de son travail. Donc Alessio est arrivé en France à la fin de l'année 1964, il est né en 1938, hein, au Brésil, donc il est brésilien, oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça, il est brésilien de Rio, et il est venu en France dans une période compliquée au Brésil, hein, puisque c'est le début de ce qu'on... à la fois de la dictature, les années de plomb, enfin bref, c'est très difficile pour le Brésil. Il est arrivé en France et il était à la fois poète, c'était un artiste beaucoup, Alessio, avec mélomane, musicien, pianiste, et dans sa carrière ensuite photographe, il a pris beaucoup de photos de musiciens célèbres, de pianistes notamment, Alfred Brendel et d'autres, Richter je crois, enfin il y en a plusieurs dont il a assuré un peu le suivi. Et c'était un artiste, et en France, donc il a non seulement commencé à travailler comme photographe, comme correspondant aussi d'un journal brésilien en France, où il a couvert mai 68 notamment, Et il a photographié, il était portraitiste, il a photographié beaucoup de personnalités de la vie intellectuelle en France, mais aussi des Brésiliens qui passaient en France. Il y a toute une collection de portraits de ces Brésiliens célèbres qui sont passés devant son appareil photo. Et puis aussi beaucoup de scènes de la vie quotidienne. Bref, c'est un artiste très complet, un photographe très complet, qui a été donc repéré par Cartier-Bresson, qui l'a fait rentrer à l'agence Magnum. Et c'est pour l'agence Magnum qu'il a couvert l'après-révolution des œillets, l'après 25 avril, et ses reportages photos qu'il a réalisés. Il y est resté quelques années, et ensuite il a continué son œuvre de photographe, toujours installé en France, et avec des compagnonnages, des parrainages et des échanges avec des personnalités du monde littéraire, hein, plusieurs livres qui ont été publiés avec des auteurs très, très célèbres en France. Et malheureusement, il nous a quittés il y a 20 ans, en 2003, lors de l'été 2003. Voilà, donc c'est un photographe de grand renom, et sur cette révolution des œillets, sur le Portugal de 1974, véritablement à connaître et à reconnaître. Voilà, c'était. Mais maintenant, peut-être complété, parce que j'ai été trop allusif et synthétique, certainement. J'aurais aimé le connaître, voilà. Alors, la quantité exacte, je ne sais pas, mais ils étaient peu nombreux. Peu nombreux parce que l'événement lui-même, le 25 avril, est soudain. C'est-à-dire que pour des raisons multiples, ça a été monté, une opération montée dans le plus grand secret. Vous pouvez imaginer, avec une police politique très présente, des indicateurs un peu partout, il fallait, cette opération dite fin de régime, il s'agissait de la monter dans le plus grand secret. Donc peu étaient dans la confidence, et évidemment pas la presse. Et donc, quelques-uns, il y en a un qui vient d'ailleurs de ressortir les photographies, hein, au Portugal. Oui, Cunhão, il vient de sortir ces photographies qui sont parmi les plus célèbres du 25 avril. Mais c'est vrai que le jeudi 25 avril, il y avait au petit matin et dans la matinée très peu de monde pour immortaliser cet événement historique. Alors certains, certainement, ont pris des clichés qu'ils ont gardés. Certains, effectivement, il y a des collections, enfin des expositions qui se font aujourd'hui à partir de... Et à Lisbonne et à Porto aussi, hein, j'ai vu à Porto la même chose. Je trouve que c'est un des moments peut-être les plus enthousiasmants de l'histoire du XXe siècle en Europe, pas simplement pour le Portugal, parce que c'est un mouvement de libération, d'espoir, de rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et somme toute, c'est quelque chose qui, pour ma génération, moi j'étais encore très jeune et j'étais pas au Portugal, mais je l'ai vécu à Paris, dans un lycée, j'étais encore collégien, et on en parlait. On en parlait pas mal. Et alors j'étais dans un lycée, peut-être parce que qui était assez politisé, où il y avait... Bon, on était quand même très sensibilisés, les uns et les autres, mais cette révolution des œillets, je m'en souviens comme si c'était hier, sans y avoir participé, et encore moins été sur place, bien évidemment. Mais c'est un souvenir d'enfance très fort, enfin d'adolescence, très très fort, très puissant, et je pense que pour les gens d'une génération qui m'ont précédé, c'est encore plus puissant. Ça a été un moment, une expérience politique extraordinaire qui a été offerte, en quelque sorte, à une jeunesse à l'époque, qui était aussi dans pas mal d'incertitudes, d'interrogations. On parlait du Chili à l'instant, qui avait été très traumatisant, et le Portugal, enfin la fameuse chanson de Moustaki, hein, à ceux qui ont perdu un idéal, dis-leur qu'un œillet a fleuri au Portugal. C'est une chanson qui dit bien l'essentiel, hein, qui rappelle bien l'essentiel. Je crois que beaucoup ont vécu cela de cette manière. Et moi, à titre personnel, oui, c'est un souvenir. Après, en m'intéressant à l'histoire du Portugal, de manière plus professionnelle, j'ai rencontré aussi quelques acteurs qui, malheureusement, aujourd'hui, sont disparus. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Otelo Saraiva de Carvalho, qui fut un des grandes figures de la Révolution des œillets. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était un homme, il a commis certainement un certain nombre d'erreurs, peut-être pas sur un sens politique très affiné, mais une sincérité très grande, une authenticité, une admiration très grande pour cette révolution. Et un témoignage que j'ai d'ailleurs repris sous les œillets, pour le 20e anniversaire de la révolution, c'était il y a 30 ans donc, presque, on avait fait une émission sur France Inter à l'époque, ah, c'est toujours France Inter d'ailleurs, sur la révolution des œillets avec Otelo de Carvalho. Et moi j'avais publié mon premier livre à l'époque sur le Portugal, 20 ans après la révolution des œillets, comme voilà, on vieillit avec. Et à la fin de l'émission, et c'est une anecdote qui à mon avis fait sens, enfin c'est pas simplement pour le plaisir de raconter des anecdotes, Otelo de Carvalho, il s'est tourné vers nous, le journaliste et moi. On venait de passer Grandoula, l'émission était terminée. Et il avait le visage, il a les yeux remplis de larmes, et il nous a dit, vous savez, elle était quand même belle, notre révolution. Et donc, moi, j'ai gardé ce souvenir intact, elle était belle, notre révolution. Ça avait une authenticité, une sincérité, une force extraordinaire. Il avait que deux témoins. Enfin, là, aujourd'hui, je le diffuse, pas un scoop, mais enfin, je vous fais livre cette info, mais il y avait que deux personnes pour l'écouter, donc il n'y avait pas de mise en scène derrière. Et l'émotion était vraiment palpable, elle était intacte chez cet homme 20 ans après. Voilà, c'est ça la révolution des œillets. Lisbonne, à ce moment-là, le Portugal, c'est devenu un lieu de pèlerinage et tout le monde voulait en être. Et la couverture médiatique a été beaucoup plus... était très forte. Hein. Tout le monde, à partir du 26 avril, a voulu en être et immortaliser tout ça et recueillir des interviews, photographies, etc. Mais la journée du jeudi 25 avril, c'est différent. Les photographies, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, elles ne sont pas si nombreuses que ça. En revanche... on en voit un certain... Alors, il faut, quand on parle de la journée du anti-épure, du 25 avril, du jeudi 25 avril, il y a une chronologie très très précise, heure par heure, minute par minute pratiquement. Et il y a une certitude de toute façon, c'est que dès que les jeunes officiers, les capitaines, ont pris le contrôle des centres névralgiques du pouvoir et de communication, en gros la partie basse de la ville, ce qu'on appelle le Terreiro do Paço, la place du commerce, les ministères, un certain nombre de centres de communication, de médias, de radios, à partir de ce moment-là, et ça se fait à partir de 4h, 5h du matin, l'effet de surprise, c'est-à-dire que le régime de Caetano, de la dictature, ne prend pas la mesure tout de suite de ce qui est en train de se passer. Et après, les communications sont difficiles à établir. Ce qui fait qu'ils vont utiliser, ils vont placer le président du conseil, Marcelo Caetano, ils vont le placer à la caserne du Carmo, où il va rendre sa démission en fin d'après-midi, parce qu'ils considèrent que c'est une caserne sûre avec la gendarmerie, enfin l'ingénieur, qui est encore aux ordres du régime et qu'il est moins exposé là. Mais il arrive à 6h du matin et déjà une partie du travail est fait, du coup d'État, comme vous dites. Après, la dimension populaire, elle est avérée, elle est très nette, et on la voit sur un certain nombre de photos et de témoignages, dans le courant de la matinée. C'est-à-dire qu'il y a un double phénomène. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été alertées, et on en parlait avec Anne, il y a tous ceux notamment qui se rendent au travail tôt le matin, et qui traversent le Tage, vous savez, avec ces petits bateaux pour traverser le Tage, et eux, on va les mettre un petit peu, voilà, ils vont prendre la mesure, conscience qu'il est en train de se passer quelque chose, et leur présence va peser aussi sur le déroulement de la journée, de la matinée du 25 avril, parce que avec cette pression populaire, ça montre bien aussi aux forces qui seraient censées riposter, et qui sont assez désorganisés, sans commandement réel, avec des moyens de communication que je viens d'évoquer, ça leur pose un problème. Il y a une pression populaire. Et puis après, il y a ce phénomène de liesse, d'engouement, parce qu'on a demandé les premiers communiqués du mouvement des forces armées au petit matin, dès 4h, 5h du matin. Ils ont pris le contrôle de 2-3 radios, et notamment en lançant la fameuse chanson après le signalement, vous savez, déclenchement est venu de la chanson Grandoula Villa Morena, qui est une chanson contestataire, enfin de protestation, et qui a été diffusée à 0h20-25 sur la radio Renaissance, là-bas. Deuxième chanson, parce qu'il y en a une qui a précédé, mais qui était un premier signal de faible importance, c'est le véritable signal, et à partir de ce moment-là, les opérations militaires de ceux qui sont dans la confidence se déclenchent. Donc c'est un coup d'État, c'est l'opération fin de régime, et on demande aux gens très vite de rester chez eux. C'est-à-dire, en gros, d'expliquer que quelque chose, le mouvement des forces armées est en train de mener une opération et que, par prudence, il est préférable de rester chez soi. Sauf que, évidemment, dans la matinée, voyant toute cette effervescence et un certain nombre de gens qui sont, de toute façon, pour des raisons professionnelles ou autres, déjà sur site, il y a une pression populaire qui va se faire. Et quand on prend la mesure que, vers 9h30, 10h du matin, que l'essentiel du contrôle est assuré, vous avez véritablement les gens dans les rues de Lisbonne, de la partie basse, qui vont à la rencontre, à l'unisson de ces... Parce que beaucoup de gens se demandaient ce que venaient faire ces soldats et ces officiers. On était encore dans la mémoire, le souvenir traumatisant, alors d'abord de ce qui se passait au Portugal jusque-là, et l'armée, elle était plutôt mobilisée outre-mer pour les guerres coloniales, et puis on avait en mémoire le septembre 1973 au Chili. Et quand des militaires déboulent dans une ville ou un lieu, c'est rarement pour établir la démocratie ou dire « vive la liberté ». Sauf que là, les militaires, très vite, laissent entendre qu'ils sont là pour renverser le régime et rétablir la liberté. Vive la liberté, dit-on. Et donc, ces jeunes militaires, il leur faut gagner, évidemment, la confiance d'une foule qui, au début, se demande, dans les premières minutes, dans les premières heures, comment ça va se passer. Le point de bascule, il se fait dans le courant de la matinée, où, à l'unisson de cette armée qui est là pour renverser une dictature, ce qui est quand même assez original, et pacifiquement, eh bien, les gens les entourent, les ovationnent, et dit « vive la liberté », « abat le fascisme », etc., etc. Et c'est à ce moment-là que, dans ces phénomènes de liesse, arrive l'épisode fameux des œillets, puisqu'on l'appelle la révolution des œillets, mais c'est parce qu'à Lisbonne, il y avait des œillets à ce moment-là, et il y en a qui, des fleuris, enfin, des femmes qui en distribuaient dans les restaurants et tout. Et du coup, les restaurants devant fermer, les lieux, les cafés, etc., étant fermés, eh bien, elles vont les offrir aux soldats qui sont dans la rue avec leurs blindés et qui se dirigent vers la caserne du Calme où s'est réfugié le président du conseil, Marcelo Caetano. Donc, il y a cette liesse populaire qui est très présente et qui fait que très vite, dès les premières heures, il y a cette osmose qui se réalise entre cette armée qui est en sédition, hein, qui est en rébellion. Avec une hiérarchie qui, pour l'essentiel, ne la suit pas. À part deux généraux qui seront dans la boucle, Spinola, le général au monocle, et puis le général Costa Gomes, les autres, ils sont au mieux dans l'expectative, voire dans l'opposition à ce soulèvement militaire. Et c'est véritablement cette pression du peuple qui va lui donner une nouvelle dimension et à la fois conforter son action, qui était très courageuse hein, de la part de ces jeunes officiers, et leur donner une assise, et notamment quand on voit les scènes, alors là, elles sont documentées aussi avec des photos, parce qu'il y en a pas mal qui ont été prises, mais on est déjà en début d'après-midi, au Carme, à la caserne du Carme, où on voit toutes ces troupes, ces blindés qui sont amassés pour obtenir la reddition de Caetano, puisque c'est finalement le dernier rempart du régime, puisque les autres ont progressivement cédé. Non sans résistance chez certains, hein, et des officiers, des généraux ont voulu faire feu contre les soldats et les jeunes capitaines. Mais à la caserne du Carme, vous avez donc les soldats, les officiers, le fameux Salgado Maia, le capitaine Maia, et puis vous avez cette foule, mais qui est perchée, on les voit dans les balcons, dans les arbres, partout, et qui crie, qui font pression, et Caetano, quand il voit ça aux fenêtres de la caserne du Carme, il a cette fameuse phrase au bout d'un moment. Il dit qu'il faut remettre, il accepte de démissionner, de toute façon il peut difficilement faire autrement sous cette pression et isolé, mais il veut remettre son pouvoir à un officier supérieur pour, dit-il, que le pouvoir ne tombe pas dans la rue. Parce que ce qu'il voit dans la rue, c'est une foule qui exhorte le président du conseil à démissionner avec des cris, etc. Il y a cette peur qui s'installe parce que cette pression populaire est très très forte. Puis dans les heures qui suivent, évidemment, les déclarations du mouvement des forces armées et les premières déclarations publiques vont dans le sens de l'affirmation d'un programme qui est certes minimaliste, mais qui dit on va démocratiser, on va décoloniser, on va développer. Le fameux 3D que le programme du mouvement des forces armées met en avant. Et ça, évidemment, c'est très fort parce qu'il y a toute une dimension. Quand ils parlent de développer et de démocratiser, il y a toute une dimension sociale qui est très présente chez eux. Dans les premiers jours, dans les premières semaines, évidemment, elle va donner beaucoup d'espoir, très vite déçu, et une efflorescence, enfin un mouvement qui était accumulé pendant les années qui avaient précédé, de contestation, d'opposition au régime, mais qui d'un seul coup, évidemment, c'est une libération. Hein, et cette foule qui envahit les rues de Lisbonne, mais aussi on voit des phénomènes similaires à Porto, qui envahit les rues de Lisbonne, c'est ce qui constitue un peu l'ADN de ce qu'on appelle vraiment, à juste titre, une révolution. C'est pas, au départ, c'est une opération de renversement d'un régime, opération fin de régime, mais qui se évolue très rapidement, dès la journée du jeudi 25 avril, en mouvement révolutionnaire, avec comme apothéose première, apogée, quelques jours plus tard, le 1er mai, où là, véritablement, une fois débarrassé, puisque Caetano a été envoyé en exil, et les principaux responsables du régime sont soit emprisonnés, soit envoyés à Madère et au Brésil ensuite, on a un phénomène de liesse populaire là, qui est considérable, au moins dans les grandes villes, et un peu moins dans les campagnes reculées, mais dans les grandes villes, qui est considérable. Et c'est donc, en ce sens, une révolution, pour répondre à votre question. Pour votre information, un scoop, j'ai terminé la biographie de Salazar qui vient de sortir au Portugal, là, en édition au Portugal, et qui sortira en France au printemps prochain. Ça m'a occupé pas mal d'années et j'ai d'autant plus apprécié de pouvoir faire des livres comme ceux dont on parle ce soir, et notamment Lumière d'avril. C'était pour moi une grande respiration. Quand on est plongé dans l'histoire, dans la biographie de cet homme, de ce dictateur, parce que ça m'a occupé plus de 10 ans, voilà, j'en suis sorti et j'en suis soulagé.